Radio Open FM. L'Europe et nous, info, histoire et actu. Plongez au cœur de la culture européenne avec la Maison de l'Europe, Europe Direct Limousin.
La chronique d'aujourd'hui est la quatrième et dernière de cette série que vous avez consacrée aux idées de guerre et de paix qui ont marqué l'histoire de l'Europe.
Oui, la semaine dernière, j'ai parlé de la montée du pacifisme après ce qu'on a appelé la boucherie de la Première Guerre mondiale. Un pacifisme qui manifeste une indignation morale contre la guerre, contre la violence dans les rapports entre les peuples, même si, la suite de l'histoire l'a bien montré, l'acceptation de la guerre comme réponse aux agressions nazies s'est imposée en France et au Royaume-Uni principalement, et ceux qui sont entrés à l'époque dans la résistance l'ont fait aussi au nom de l'idéal de paix.
Quel sera le sujet de la chronique de cette semaine alors ?
Nous allons essayer de voir ensemble comment, dès la fin de la Première Guerre mondiale, mais surtout après la Seconde, la nécessité de construire une Europe politique s'est imposée dans l'esprit de nombreux intellectuels et hommes politiques, mais pas seulement, comme le meilleur moyen d'installer durablement la paix sur le continent, ce qui conduira dans les années 1950 au premier pas de la construction européenne. J'ai eu l'occasion de dire ici que cette vision d'une Europe unie n'était pourtant pas une nouveauté du XXe siècle. Elle avait eu des précurseurs dans l'Europe des siècles précédents et même en remontant jusqu'au Moyen Âge.
Allez, je vous suis.
Alors, il me semble nécessaire toutefois de préciser que l'idée du recours à la guerre en cas de désaccord entre des peuples ou des États a toujours été considérée comme naturelle, même si l'on déplorait, dans la poésie populaire notamment, les méfaits qu'elle provoquait, surtout pour les plus déshérités, les paysans dont les terres étaient ravagées, les fermes pillées. Un mal inévitable, en quelque sorte. Imaginer un autre fonctionnement du monde relève donc alors de l'utopie. C'est ce que fera le poète et penseur italien Dante Alighieri à la fin du XIIIe siècle dans un ouvrage intitulé « De la monarchie » dans lequel il développe l'idée d'un régime idéal, la monarchie universelle qui engloberait toutes les nations dans un même ensemble politique. Je le cite, « Pour supprimer les guerres et leurs causes, il convient donc nécessairement que toute la terre et tout ce qu'il est donné de posséder à l'espèce humaine soit une monarchie, c'est-à-dire une seule principauté ayant un seul prince. » Au XVIIIe siècle, le siècle des Lumières, ce désir d'unité des peuples sera repris par l'abbé de Saint-Pierre, puis par Jean-Jacques Rousseau, par le philosophe allemand Emmanuel Kant aussi, qui publie un projet de paix perpétuelle. Et c'est enfin un siècle plus tard que Victor Hugo, que j'ai cité la semaine dernière, proposera la célèbre formule d'États-Unis d'Europe. Cette union des peuples européens qui devra faire triompher la paix, la liberté et la justice. Les horreurs du premier conflit mondial feront apparaître à beaucoup comme une impérieuse nécessité de réaliser cette utopie.
Vous souhaitez donc là nous parler de quelqu'un dont j'ignorais mais totalement l'existence.
Oui, rassurez-vous, je l'ignorais aussi il y a peu. Oui, mais j'en ai quand même déjà parlé sur cette antenne. Il s'agit de Richard Coudenhove-Kalergi, qui a mené tout au long de sa vie le combat pour le rapprochement des peuples européens et qui, dans les années 1920, fonde le mouvement Pan-Europe avec le soutien du ministre des Affaires étrangères français, Aristide Briand, qui va plaider auprès de la SDN, la Société des Nations, pour la création d'États fédérés d'Europe. Le projet Pan-Europe ne résistera pas à la montée des périls dans les années 30, pas plus d'ailleurs que la SDN. Le premier cadre officiel multilatéral de résolution pacifique des conflits qui sera remplacé en 1945 par l'ONU actuelle.
Et c'est seulement après la guerre que le projet va se réaliser.
Oui, une histoire que l'on connaît mieux comme les noms de Jean Monnet et de Robert Schuman. C'est le discours de ce dernier prononcé il y a bientôt 75 ans, le 9 mai 1950, le 9 mai est devenu en souvenir le jour de l'Europe, qui est considéré comme l'acte fondateur de la construction européenne. Et cela au nom de la paix. Je vous en lis un court extrait. Pour que la paix puisse vraiment courir sa chance, il faut d'abord qu'il y ait une Europe et y associer l'Allemagne. l'Allemagne associée à la France, c'était quelques années plus tôt absolument inimaginable. Et cette association se fait autour de la mise en commun des productions de charbon et d'acier, une source d'énergie et une matière première de la plus haute importance dans le domaine stratégique. Ce sont les prémices de la future CECA, Communauté européenne du charbon et de l'acier, et c'est bien le volontarisme politique qui est ici brandi en garantie de paix. Un volontarisme qui ne réussira pourtant pas à faire accepter par la classe politique française en 1952 le projet d'une armée européenne dans le cadre du projet de Communauté européenne de défense. Une idée qui s'est toutefois réinvitée dans le débat européen avec l'invasion de l'Ukraine et les menaces que l'impérialisme russe fait peser sur l'Europe.
Et c'est donc sur cette idée de préserver la paix que s'est construite l'Europe que nous connaissons aujourd'hui ?
Oui, en 1957 est signé le traité de Rome qui donne naissance à la Communauté économique européenne, puis avec le traité de Maastricht en 1992 est fondée l'Union européenne actuelle, qui entend détacher la construction européenne de la seule dimension économique en instituant, entre autres, une politique étrangère et de sécurité commune, ainsi qu'une citoyenneté européenne. Un pas a donc été fait vers cette unité qu'espérait notre Victor Hugo, et de fait, pendant plus de 70 ans, l'Europe ne s'est pas déchirée, et les Européens que nous sommes n'ont pas vécu de guerre. Malheureusement, les événements récents nous ont rappelé qu'au marge de notre Union européenne, hier dans l'ex-Yougoslavie, et depuis février 2022 aux frontières de l'Est, la paix est loin d'être définitivement installée. Mais nous noterons toutefois que, contrairement à ce que s'imaginait M. Poutine, les 27 ont été unanimes à condamner cette invasion. Mais le débat a apporté aux Ukrainiens est pourtant loin d'être clos.
Merci Jean-Pierre, je crois savoir que c'est un sujet beaucoup plus léger que vous allez aborder la semaine prochaine.
Oui, vous savez que nous rapprocherons des fêtes de fin d'année.
Tout à fait. Merci Jean-Pierre, à la semaine prochaine.
Eh bien, bonne semaine à tous.
C'était l'Europe et nous. Infos, histoire et actu autour de la culture européenne. À retrouver chaque semaine avec la Maison de l'Europe, Europe Direct Limousin, 51 avenue Georges Dumas à Limoges, 05 55 32 47 63 et sur le www.europe-limousin.eu.